À l'heure actuelle, entre 10 et 16% de la population déclare ne pas toujours avoir assez à manger, dans un contexte de flambée des prix alimentaires qui dure depuis 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cham. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème de la précarité alimentaire. Mais tout d'abord, nous allons nous présenter rapidement. Charlotte, moi-même, Emma et Eva, sommes étudiantes en deuxième année de BTS en Management Hôtellerie et Restauration. Nous serons les animatrices du jour pour ce podcast. Et Baptiste, qui est élève en bac professionnel, spécialisé dans la mécanique et l'automobile, sera notre invité qui interviendra sur certaines de nos interrogations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès à la nourriture lié à la précarité alimentaire. Ce podcast est relié au thème de culture générale et expression, à table, formes et enjeux du repas, traité en deuxième année de BTS.
Notre chronique se base sur une analyse de divers extraits. Le film Hunger Games, dont nous avons pris un extrait sur YouTube, plusieurs documentaires sur les Restos du Cœur que nous avons également visionnés sur YouTube, et plusieurs études de l'INSEE, de France Inter, de la Banque Alimentaire, du Crédoc et de la Vie Publique. Nous aborderons plusieurs points. Le premier, l'accès au repas en général face au budget réduit. Ensuite, les associations, ici les Restos du Cœur, qui tentent de pallier ce problème. Et enfin, le gaspillage alimentaire, une des nombreuses causes de la précarité alimentaire. Tout d'abord, qu'est-ce que la précarité alimentaire ? Il s'agit d'une situation dans laquelle une personne ne dispose pas d'un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins nutritionnels, pouvant entraîner de l'exclusion sociale. Première partie, l'accès au repas en général face au budget réduit. Bonjour Baptiste, pouvez-vous nous dire quelles sont les catégories de personnes en situation de précarité alimentaire aujourd'hui ?
Les catégories de personnes concernées par la précarité alimentaire ont beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, les catégories sont assez diverses. On peut lister les personnes seules, les travailleurs précaires ou les chômeurs, les personnes non francophones, les réfugiés, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes peu diplômées, les personnes sans logement, les ménages monoparentaux ou encore les familles nombreuses. Les étudiants sont également concernés par cette précarité alimentaire avec une personne sur deux ayant moins de 25 ans. De plus, les personnes âgées ayant plus de 65 ans sont de plus en plus concernées, notamment à cause de leur pension de retraite insuffisante.
Finalement, contre toute attente, les personnes sans abri représentent seulement une minorité. De plus, nous pourrions croire que la majorité des personnes touchées vivent en ville, mais pas seulement, une grande partie vit à la campagne. Combien de personnes ont aujourd'hui des difficultés à se nourrir en France ?
L'inflation, plus particulièrement sur l'alimentation, accentue la précarité alimentaire. Mais l'inflation sur l'énergie joue également un rôle sur la perte du pouvoir d'achat. La précarité alimentaire touche un nombre croissant de citoyens français. Environ 40% disent ne pas manger ce qu'ils souhaiteraient et 16% déclarent ne pas toujours avoir à manger. Par faute de moyens, ces personnes se tournent vers des aliments de moins bonne qualité et réduisent la fréquence de prise de repas. Or, seulement une personne sur deux a recours aux aides alimentaires, soit par méconnaissance des structures, soit par honte.
Nous allons désormais nous intéresser au film mondialement connu, adapté donc du livre de Suzanne Collins, qui s'appelle Hunger Games. Dans ce film dystopique, Katniss Everdeen, une jeune femme de 16 ans, vit dans le district 12 d'un état nommé Panem. Les habitants des 12 districts vivent sous la coupe du Capitole, un puissant gouvernement autoritaire dirigé par le président Snow, qui a dans le passé réprimé une insurrection conduisant à une guerre civile. À la suite de cette guerre, le Capitole a décidé d'organiser chaque année un jeu télévisé nommé les Hunger Games, pour contrôler le peuple par la peur. Les 24 participants au jeu, qu'on nomme les tribus, sont recrutés en tirant au sort deux adolescents, une fille et un garçon, tous deux âgés de 12 à 18 ans, dans chacun des 12 districts de Panem. Les tribus doivent ensuite s'affronter dans une arène au cours d'un combat à mort, au terme duquel il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Lors de l'élection de la 74e édition de Hunger Games, Prime, la jeune sœur de Katniss, âgée de seulement 12 ans, est tirée au sort pour représenter son district. Katniss se porte alors volontaire pour prendre sa place afin de la sauver d'une mort certaine. Maintenant que je vous ai fait une petite remise en contexte, on va pouvoir analyser ce film. Premièrement, on peut se poser la question, comment Hunger Games illustre les différences de classe sociale et l'accès à la nourriture ? On peut premièrement voir avec le Capitole, qui possède des infrastructures soignées, des gratte-ciels, des lumières diverses et variées, et des vêtements de créateurs qui affichent des couleurs vives, avec des coiffures et des maquillages assez extravagants. On peut voir qu'ils sont dans le déni du réel. Cela est très bien illustré avec notamment le personnage de Effie, qui est la chaperonne de Katniss, et qui va donc les emmener dans le Capitole et leur montrer un peu les coutumes et les bonnes manières. Et on peut voir, à contrario, le district 12 qui est quant à lui présenté avec des maisons simples et délabrées, une atmosphère assez sombre, ils vivent seulement avec le strict nécessaire et doivent chasser illégalement pour manger et subvenir à leurs besoins primaires. Ils sont pour cela contraints de mettre leur vie en danger, en mettant notamment plusieurs fois leur nom dans l'urne en échange de nourriture. Le désespoir et la famine se font donc ressentir, ainsi que la peur. On peut désormais se demander en quoi le film va donc dénoncer cette précarité sociale. Le Capitole possède donc les critères et l'apparence d'un pays développé. C'est un pays donc qui est rempli de richesses, avec une population aisée, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont bien habillés, dans le déni du réel, avec des infrastructures soignées et avec un aspect riche, aisé. Les districts 1 et 2 sont quant à eux sous forme de pays en développement, mais malgré tout plus développés que les autres pays, donc que les autres districts dans ce cas, comme notamment le district 11 et 12, qui sont vraiment les deux derniers districts qui sont les plus atteints par la pauvreté. Et donc, comme je disais, les districts 11 et 12 sont vraiment assimilés à ce côté des laissés pour compte, assimilés donc à la pauvreté des pays en développement. Ce sont les moins développés qui ressentent le plus besoin. Ils ne mangent pas à leur faim, ils éprouvent la famine. Et la majorité des personnes donc, se trouvent en situation de précarité et n'ont pas donc accès à leurs besoins primaires, contrairement au Capitole, qui eux ont donc de la nourriture à foison. On peut désormais donc se demander quels sont les moments phares du film, donc livre, qui démontrent ces inégalités. Notamment la scène, au départ, où on voit Pita, donc qui jette un bout de pain rassis dans la boue, qui est donc destiné au cochon. Il va le donner à Katniss qui meurt de faim. Ça montre bien donc cette souffrance et la précarité qui les touche. On la voit donc dans un état critique, en quête de nourriture. Et on peut voir que plutôt de la donner au cochon, sachant que le pain là-bas est très précieux, il va donc le donner à Katniss. Tandis qu'après avoir gagné les jeux, on peut voir donc cette scène assez choquante qui montre le contraste avec Pita et Katniss qui sont donc invités au Capitole, où la nourriture est abondante, à foison, et où ils n'ont jamais pu espérer autant. On leur dit alors de prendre une pilule pour se faire vomir pour continuer à manger, quand ils n'en peuvent plus, en raison de la trop grande quantité de nourriture. Un parallèle donc qui les choque et qui les déstabilise, notamment donc pour les deux héros, ainsi que même pour nous les spectateurs qui les regardent. La dernière question, peut-être donc comment est-ce qu'on peut le rapprocher de la réalité et des enjeux liés à l'inégalité de l'accès à la nourriture. On peut voir donc que ce film représente bien les inégalités sociales des pays développés et en développement, avec leurs difficultés à subvenir à leurs besoins primaires pour certains, et pour d'autres où ce besoin n'existe pas. Donc comme je le disais tout à l'heure, on peut voir le Capitole est quand même présenté comme un pays très aisé, qui ne manque de rien, où pour eux le besoin n'existe pas, et les districts 11 et 12 qui sont vraiment dans une famine extrême et dans une grande précarité.
Partie 2, les associations, ici les Restos du Cœur, qui tentent de pallier ce problème. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'association Les Restos du Cœur, en interrogeant Baptiste, notre invité qui a déjà travaillé, n'est-ce pas ?
Effectivement, j'y ai travaillé il y a plusieurs années en tant que bénévole.
Alors, comment fonctionnent les Restos du Cœur ?
Tout d'abord, la situation des personnes pouvant bénéficier de cette aide doit rentrer dans le barème de l'association. Ce barème comprend plusieurs catégories comme le revenu, les aides sociales, le logement, le nombre de personnes à charge. Ensuite, il possède 9 points pour une seule personne, sinon 12, chaque semaine pour aller chercher de la nourriture. Et quelquefois des produits spéciaux comme du gel douche, de la lessive, des vêtements, des jouets pour enfants, des places de spectacle, mais aussi faire des lessives. Le fonctionnement n'est pas le même que dans les supermarchés, ce sont les bénévoles qui les servent pour réguler les quantités et les aider à gérer leurs points. La nourriture et les produits proviennent de dons de nourriture de personnes ou d'enseignes de magasins, mais aussi de dons financiers par l'Union Européenne notamment, permettant à l'association d'acheter les produits nécessaires. De plus, les Restos du Cœur distribuent eux-mêmes des paniers repas, en général en fin de mois, mais aussi des vêtements pour les personnes sans domicile fixe. Mais ils peuvent aussi aider les bénéficiaires à trouver un logement, de l'électroménager et un travail.
Les associations permettent-elles réellement de pallier ce manque d'accès à la nourriture ? Et jusqu'à quel point sont-elles efficaces ?
Elles y contribuent énormément, mais elles ne peuvent pas remplir complètement les besoins nutritionnels des bénéficiaires, ni compenser un salaire trop faible. Les épiceries locales et solidaires sont également une alternative qui n'est pas encore très connue. Toutefois, le manque de dons et de bénévoles ne permet pas d'aider la croissance du nombre de bénéficiaires. Les produits les plus manquants sont les produits frais, la viande, le poisson, les fruits et les légumes. En effet, les grandes surfaces vendent leurs produits en date courte au lieu de les donner aux associations comme auparavant. à la place s'ils leur donnent des produits déjà périmés, que les associations ne peuvent pas donner et doivent donc jeter. Face au manque de ces produits dans les associations, les personnes en situation de précarité alimentaire choisissent de se nourrir principalement de ces produits à prix réduit. Alors, pour pallier le manque de légumes, des terrains invendables des régions sont prêtés à des associations, leur permettant de cultiver leurs propres produits. Serait-ce alors la solution, cultiver gratuitement au lieu d'acheter à des grandes surfaces toujours plus gourmandes, pour permettre d'aider le plus grand nombre? Finalement, il ne faut pas oublier que la solidarité est essentielle, à la fois entre proches, mais également entre inconnus.
Troisième partie, le gaspillage alimentaire, une des nombreuses causes de la précarité alimentaire. En quoi la réduction du gaspillage alimentaire permettrait-elle un meilleur accès à la nourriture pour les personnes défavorisées ? En France, en 2022, 9,4 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été produits, et parmi eux, 4 millions, soit 24 kilos, étaient encore comestibles, produits abîmés, restes de repas. La valeur moyenne du gaspillage alimentaire s'élève à 100 euros par habitant et par an. Comme nous l'avons dit plus tôt, les grandes surfaces jouent un rôle important dans le gaspillage alimentaire. Préférant gagner quelques euros de plus plutôt que de donner à temps les produits qui ont des dates courtes à des associations. De plus, toutes les grandes surfaces ne font pas de réduction pour leurs produits en date courte. Les aliments les plus jetés sont la viande, le poisson, les fruits, les légumes et les viennoiseries. Ces tonnes d'aliments jetés, pourtant encore consommables, pourraient permettre à des milliers de personnes de mieux se nourrir et de varier leur alimentation, se permettant de remplir quelquefois leurs besoins nutritionnels plutôt que de consommer uniquement des produits industriels. Cependant, les grandes surfaces ne sont pas les seules responsables. De nombreuses personnes ne voient pas l'impact qu'engendrent quelques pâtes ou quelques morceaux de viande jetés tous les jours. Des gestes simples permettraient un meilleur accès à la nourriture pour tous et réduiraient la précarité alimentaire. Une meilleure gestion des aliments permettrait également d'économiser de l'argent. Tout le monde a un rôle à jouer. De nos jours, il est simple de s'impliquer, par exemple en utilisant des applications comme Too Good To Go, pour acheter des produits moins chers avant qu'ils ne soient jetés. Ce genre de système est profitable à tous, aussi bien aux magasins qu'aux consommateurs. Finalement, l'accès à la nourriture n'est pas un acquis pour tous. Au niveau mondial, une personne sur 10 souffre de la faim, déclare l'ONU. Les guerres et le dérèglement climatique accroissent ces inégalités d'accès aux ressources. De plus, l'alimentation permet d'observer les rapports de domination au sein des sociétés, les comportements et les habitudes d'une classe sociale à une autre, ou d'un genre à un autre. Nous pourrions alors conclure sur la célèbre phrase de Bria Savarin « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai combien tu gagnes ».
Et voilà, notre chronique touche désormais à sa fin. Je tiens à remercier notre invité spécial pour nous avoir éclairé sur certains points. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés et d'être toujours aussi actifs. On espère que ça vous a plu et on attend vos retours avec impatience. On vous dit à bientôt pour une nouvelle chronique.